Nous allons lire des psaumes petit à petit, car nous allons comprendre pourquoi les psaumes sont tellement imprégnés d'histoire sainte. Et finalement, on ne peut vraiment les comprendre qu'en ayant connu l'action de Dieu pour notre salut. Ce sont ce qu'on appelle des psaumes historiques. Vous avez... Comment dire? Il faudrait que vous déviez une table. Vous avez des psaumes historiques. Et vous avez aussi le psaume de les livres de la sagesse, le livre de la sagesse, qui à un moment donné fait toute l'histoire sainte également. Et nous lirons donc ces psaumes pour faire le résumé de ce que nous avons vu et comprendre l'action de Dieu. Je vous conseille un livre qui est peut-être moins édité de nos jours, mais qui est quand même assez récent. C'est « Comprendre les Écritures », un cours complet d'introduction à la Bible qui, aux éditions Wilson et la Fleur. Wilson et la Fleur. Collection Gratianus, G-R-A-T-I-A-N-U-S, Comprendre les Écritures. Alors là, vous avez non seulement l'histoire sainte, mais des cartes et également des extraits du catéchisme de l'Église catholique pour tout l'enseignement moral. C'est vraiment un excellent livre. Je pense qu'à une année, je ferai une année entière avec ce livre comme manuel pour tout le monde et on le prendra chapitre par chapitre. Mais donc, nous étions au prophète Élie. Le prophète Élie est un prophète donc qui vient reprocher au roi du Nord, qui a pris les 10 tribus, de rétablir le veau d'or. Vous avez ici une petite image. Vous avez le temple de Samarie. Vous avez le dieu Apis qui a été restauré. Pourquoi faire ? Même pour empêcher les Hébreux d'aller adorer à Jérusalem dans la tribu de Juda. Et les tribus de Juda et de Benjamin étaient restées fidèles aux petits-fils du roi David, et les 10 autres tribus se sont séparées pour une histoire d'influence politique, mais cela a provoqué une division religieuse. Cette division religieuse, c'était pour éviter justement que le roi le royaume de Juda, de la tribu de Juda, qui a donné le terme de juif, soit prépondérant par rapport au royaume d'Israël. Mais en fait, les 10 tribus d'Israël sont assez petites. Vous voyez, le royaume de Juda est constitué de la tribu de Benjamin et de Juda. Et tout le reste est constitué par les 10 tribus d'Israël. Ça fait 2 royaumes. 2 rois pour un seul peuple. Mais justement, la religion depuis Abraham, c'est celle du vrai Dieu. Depuis Moïse, on a la présence de l'Arche d'Alliance. Donc, on ne peut pas être indifférent quand on est juif, lorsqu'on est fidèle au roi David, fidèle au roi Salomon. Il y a une blessure intérieure, avoir refusé le petit-fils de David, Roboam, qui était un homme trop dur et trop sévère et très prétentieux, qui a provoqué le schisme. Mais cette restauration du veau d'or, Dieu la réprouve fortement. Et donc, dans le premier livre des Rois, chapitre 12, versets 26 et 27, Jéroboam, le général du Nord, qui prend les 10 tribus, dit dans son cœur, « Maintenant, le royaume pourrait bien retourner à la maison de David. Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison de Yahvé à Jérusalem, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur et à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après avoir consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Dan, c'est la ville du Nord et qui est une ville homonyme de la tribu de Dan. Et Bethel se trouve juste à la frontière de Juda. Donc c'est 2 veaux d'or. Ensuite, quand ils retourneront quand même à une religion plus conforme, l'occupation étrangère et les lévites et les prêtres qui étaient du côté du royaume du Nord vont constituer un temple dans la capitale du royaume du Nord, à Samarie. Ce qui fait que quand le Christ se trouve en Samarie et qu'il est fatigué du chemin et qu'il se repose sur le bord du puits de Jacob, c'est chez les Samaritains. Et une Samaritaine qui est donc descendante en l'an zéro de tout ce schisme de l'an 950, ça fait 9 siècles que les Hébreux se mélangent avec des païens dans le royaume du Nord. Et donc les Juifs sont très méprisants vis-à-vis des Samaritains qui ont une religion hérétique et qui en plus ne sont pas totalement du peuple hébreu avec des mélanges. C'est pour ça que Jésus dit à la Samaritaine, nous, nous adorons celui que nous connaissons, vous, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais il arrivera un jour où ce n'est ni ici, ni à Jérusalem que vous adorerez. Parce que Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Donc Jésus dit à une Samaritaine que le culte du temple de Jérusalem va cesser, c'est quand même pas rien. C'est une révélation énorme quand on y pense. Mais comment nous, chrétiens, catholiques, tranquilles, parisiens, on peut comprendre l'importance de cette phrase si on n'a pas fait l'histoire sainte? En fait, voyez-vous, les Samaritains sont en effet des hérétiques, moitié fidèles à la religion d'Abraham et moitié teintés de paganisme des envahisseurs. Alors, une partie du rôle des prophètes vont être de reprocher aux 10 tribus de s'être écartées de la rectitude de la vénération de la présence de Dieu à l'Arche d'Alliance. Donc, je vous ai compté le livre de Jonas, je crois, la dernière fois, ou je ne suis pas sûr. Donc, le prophète Jonas arrive lui donc sur ses entrefaits et il est très important pour le temps de la passion, le temps du carême, le temps de la passion et pour la résurrection. Le récit de Jonas est très important. Je ne vous l'avais pas fait. Le livre de Jonas est un livre autonome dans la Bible. Il nous fait comprendre combien il est difficile d'ignorer l'appel de Dieu. Jonas est un prophète du royaume du Nord d'Israël. Donc ça veut dire que le bon Dieu envoie quand même des prophètes au milieu de ces hérétiques, voyez, pour leur faire cesser leur idolâtrie du veau d'or d'ailleurs. Hein. Et voilà que Dieu lui dit, de se rendre à Ninive. Ça vous dit quelque chose, Ninive? En ce moment, il y a la guerre là-bas. C'est les Assyriens. Les Assyriens, c'est, si je ne me trompe, hein, on est en Irak. Hein, Ninive, c'est l'Irak. Et voilà que il demande à un de ses serviteurs d'aller dire dans la ville du roi, enfin de l'empire des Assyriens, de les sauver. Mais les Assyriens sont des ennemis jurés du peuple juif. Le couloir d'invasion que représente la Terre Sainte est emprunté de temps en temps par les Assyriens de manière très agréable pour eux. C'est une balade, c'est une promenade. Mais enfin, les Juifs, à chaque fois qu'ils voient les armées détruire leurs champs, leurs maisons, sont moins heureux. Voilà. Et donc, ils demandent à Jonas d'aller dans la grande capitale d'Assyrie, qui est tellement grande qu'il faut 3 jours pour la parcourir en entier, en faire le tour. Et il lui dit d'aller et de dire à cette ville que dans 40 jours, hein, les 40 jours de pénitence, eh bien, s'ils ne font pas pénitence, la ville sera anéantie. Alors, Jonas reçoit ce message et ne veut pas l'accomplir. Il refuse. Il part dans un bateau. Il fuit le Moyen-Orient. Il part et il quitte la Terre Sainte, il s'en va pour que plus à entendre parler du royaume du Nord, d'Israël, de Ninive, de Dieu, il est vexé à mort. Bon. Aussi loin qu'il pouvait aller, on dit qu'il va vers les îles de Tarsis, c'est-à-dire un bateau qui partait vers l'Espagne, qui était connu, mais qui était considéré comme une île. Pour les Hébreux, parce que c'était une péninsule. Imaginez l'Espagne, voyez, s'ils parcouraient la côte, ils arrivaient jusqu'à l'Italie, mais même l'Italie était considérée comme une île, voyez. Et s'ils allaient par le sud, ils tombaient sur l'Espagne qui apparaissait comme ça aussi. C'est pour ça que quand dans la Sainte Écriture on vous parle des îles, c'est l'Italie, l'Espagne, c'est l'Europe. Vous voyez, mais l'Europe qu'on atteint par bateau. Il s'imaginait pas qu'il y avait tout cette prolongation, n'est-ce pas, cette presqu'île, n'est-ce pas, cette péninsule européenne qui rentre dans l'océan. Donc il est tout content, il s'en va. Alors ben Dieu, lui, quand il a une mission à confier, il la confie. Et donc pendant que le bateau traverse la Méditerranée, il y a une tempête épouvantable qui démonte quasiment le bateau. Les marins sont sans doute des Phéniciens, ceux qui ont fait leur colonie à Marseille et tout ça. Et eux, ils prient leurs idoles, mais la tempête ne cesse pas et ils vont mourir. Et alors, Jonas, lui, dort dans le bateau. Ça vous dit rien, le Christ qui dort dans le bateau? Jonas dort. Parce qu'il a confiance en Dieu tout en désobéissant à Dieu, il se dit de toute façon, quoi qu'il m'arrive. Et les marins le réveillent. Ils sont étonnés d'abord qu'il dorme puisque tout saute en l'air dans le bateau. Et ils lui disent, nous périssons, aidez-nous. On va mettre toute la cargaison par-dessus bord pour au moins nous sauver. Et Jonas leur dit, si il y a cette tempête, c'est à cause de moi parce que je désobéis à mon Dieu. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Tu ne peux pas prier ton Dieu pour que ça s'arrête ? Mais pour que ça s'arrête, eh bien, il faudrait rebrousser chemin, enfin, jetez-moi à l'eau. Ah, les marins disent, mais il est complètement fou celui-là. Et ton Dieu, il ne va pas nous reprocher d'avoir tué un de ses serviteurs, un de ses prophètes ? Non, non, vous inquiétez pas, c'est une affaire entre lui et moi, on est fâchés. Voilà. Donc, ils jettent Jonas à l'eau. Mais à peine jeté à l'eau, la tempête s'apaise et s'arrête. Et là, vous avez une peinture où on voit un cétacé avaler Jonas. Alors, vous êtes sûr, je ne vous ai pas raconté cette histoire qui date d'une quelques décennies, où vous avez un homme qui a été retrouvé dans une baleine. Donc, on a chassé la baleine, on a pris la baleine, on lui a ouvert le ventre pour la préparer, la couper en morceaux pour le porc. Et voilà qu'un homme est tombé du ventre de cette baleine. Et cet homme était vivant. Donc il respirait le peu d'air, de gaz qu'il y avait dans le ventre de la baleine. Il avait eu quelques petits ennuis avec les sucs gastriques quand même. Donc il n'était pas très beau à voir. Il était vivant. On a surnommé cet homme Jonas. Alors, je vous pose une question. Saint Nicolas de Flux a communié pendant 15 ans sans boire ni manger. Marthe Robin, qui est maintenant servante de Dieu, a pendant près de 40 ans ni bu ni mangé. Le Seigneur a ressuscité des morts. Il a guéri des maladies pour nous montrer que la guérison spirituelle, il nous dit, vous voyez, quelles que soient les guérisons et les miracles qui peuvent avoir lieu sur terre, c'est une annonce de notre guérison et de notre résurrection et de notre bonheur de l'âme spirituelle. Car même le pauvre Lazare, il a été guéri d'une grande maladie qui est la mort corporelle, mais il est mort une deuxième fois, Lazare. Il a vieilli et très généralement, on meurt. Hein, c'est inexorable. On a beau être miraculé de telle ou telle maladie, on finit toujours par mourir. Si, si. Tous ceux qui ont été miraculés à Lourdes sont morts, finalement. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. Car dans la foi catholique, autant les miracles sont très importants, autant on sait qu'ils sont des consolations temporaires de Dieu. Et que l'important, c'est de sauver son âme. Mais voyez-vous, quand on voit le miracle de Fatima, dont on va fêter le centenaire, donc mon Dieu, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, je serai encore là, vivant, pas malade, pas... Comment dire, que je serai ici à Saint-Eugène et qu'on fera un truc extraordinaire pour le centenaire des apparitions de Fatima. Au mois de mai, on va parer l'église, on va mettre des fleurs partout pour la Vierge Marie. Donc, on consacrera la paroisse au Cœur Immaculé de Marie, co-rédemptrice, pour le centenaire de Fatima. J'attendrai patiemment le centenaire pour faire cette consécration, si Dieu me prête vie. Eh bien, vous pensez bien que le miracle de Jonas, qui chagrine beaucoup mes grands amis, les exégètes modernes, les commentateurs de la Bible moderne, qui disent, mais vous voyez bien que ce livre est inventé, c'est un conte philosophique, voire spirituel, voire théologique, du bout des lèvres, n'est-ce pas ? Et c'est plutôt un conte des mille et une nuits pour eux. Et donc, là, Jonas survit à 3 jours dans le ventre de cette baleine. Aucun problème pour le bon Dieu de laisser en parfaite santé. Et ce cétacé le recrache sur les bords de la Syrie. Ensuite, il est vexé comme un pou, mais il a bien compris qu'il ne pouvait plus rien faire. Donc il va marcher jusqu'à Ninive, qui est dans les terres. Hein. Et Jésus nous dit qu'il ne nous sera pas donné un autre signe que celui de Jonas. Jésus canonise le livre de Jonas. Alors là, les exégètes modernes, ils sont bien vexés, à moins qu'ils disent que Jésus lui-même n'a pas dit ça, que l'évangéliste ivre-mort a écrit ça, ou que c'était les premiers chrétiens qui ont inventé ça. Mais c'est très... À la fin, vous voyez, il ne reste plus rien de la Bible. Jésus dit, vous voulez un signe? Parce que là, à un moment donné, il demande à Jésus un miracle tout de suite maintenant, alors qu'il est en train de prêcher dans le temple. Ça ne leur suffit pas qu'à chaque fois qu'ils se promènent, tous ceux qui sont malades touchent son manteau, le touchent, sont guéris immédiatement. Imaginez le nombre de centaines, de milliers de personnes qui ont été guéries pendant les 3 ans de la prédication du Christ. sans compter les trois morts qui ont été ressuscités, il demande, alors qu'il est dans le temple, « Fais-nous un signe tout de suite !» Eh bien là, Jésus ne veut pas faire de miracle. Pourtant, il en a fait quelques-uns, même dans le temple. Avec celui, le paralytique, il y a un paralytique qui est à la porte d'un temple, du temple, pardon. Il y a aussi l'aveugle de la piscine probatique. Il y a, cette puissance du Christ qui ne veut pas faire tout le temps des miracles parce que ce qu'il veut, c'est le cœur. Donc, c'est pour ça, voyez-vous, que les anglo-saxons américains qui font des miracles toutes les 5 minutes dans leur mega church, tous les dimanches, ils sont là, ils imposent les mains et tout le monde se lève, tout ça. Enfin, tous les professionnels, hein, ils arrivent en fauteuil roulant tous les dimanches. Ils se lèvent tous les dimanches, ils sont payés pour ça. Donc, mais le pire, c'est quand c'est prodigieux. Je ne vous dirai pas qui dans un stade en Afrique a invoqué l'Esprit Saint sur des malades qui avaient été tirés de l'hôpital militaire du coin. Certains qui étaient en fauteuil roulant se sont levés. Seulement, dans les 6 mois qui ont suivi, ils sont tous revenus à l'hôpital. Vous savez, le bon Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il nous guérit, il nous guérit. Ce n'est pas pour qu'on retombe malade tout de suite. Un miracle, c'est une guérison instantanée d'un mal incurable et une guérison permanente. Sinon, ce n'est pas un miracle. C'est une rémission. Mais ce n'est pas un miracle. Donc, tout ça pour vous dire que Jésus leur dit, « Eh bien, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. » C'est quoi ? C'est que l'âme du Christ va passer 3 jours aux enfers. Alors, qu'est-ce que c'est que les enfers pour les Juifs ? Les enfers, c'est le lieu où se trouvent les âmes, telles que les Juifs l'attendaient, parce que Dieu ne leur avait pas encore révélé que la vie éternelle, c'était de vivre avec lui. Ils pensaient simplement que les justes vivaient paisiblement dans les limbes des patriarches. Qu'est-ce que c'est que les limbes des patriarches ? C'est une expression qui dit « ils sont aux limites de l'enfer, de la damnation, de ceux qui ont refuser de vivre avec Dieu et qu'ils le voudront toujours refuser de vivre avec Dieu et librement. Voyez, ce qui peut nous consoler du scandale de penser que quelqu'un est en enfer, de dire mais Jésus il est tellement bon, tellement gentil qu'il va les accueillir, mais seulement voyez-vous, au ciel il n'y a pas de schtroumpf grognon. Voyez, ils sont là dans un coin et disent j'ai pas envie d'être là, qu'est-ce que je fais là, je vous déteste tous. Dans la vie éternelle, il n'y a pas d'âmes qui ont la haine de Dieu et de leur prochain. Vous allez me dire, oui, mais Jésus va les hypnotiser, va changer leur âme, il va faire une greffe, n'est-ce pas ? Non. Quand un être humain librement, quand un ange librement a la haine de Dieu, la jalousie, eh bien, il ne change pas d'avis, Dieu nous l'a révélé. Et donc, ce qui fait que ceux qui pensent qu'à la fin des temps ou à un moment donné, il y aura une apocatastase, c'est-à-dire une super vision, révélation, une manifestation toute particulière qui fera que Lucifer deviendra gentil, que tous les damnés sortiront de l'enfer. C'est faux, c'est contraire à ce que Jésus nous a révélé. Alors pourquoi Jésus nous a révélé cela ? D'abord parce que c'est la vérité, il ne veut pas nous mentir, et que ça nous aide aussi à réfléchir au péché. La Vierge Marie, à Fatima, montre l'enfer à 3 enfants de 10 ans. C'est quand même un peu raide comme catéchisme. Surtout que, bon, elle leur a dit avant qu'ils allaient aller au ciel. Mais qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient l'enfer. La Vierge Marie écarte les bras, vous avez une lumière qui rend le sol translucide. Et qu'est-ce qu'ils voient dans le magma terrestre ? Des anges qui sont ignifiés, ignis en latin c'est le feu, donc ils sont visibles alors que ce sont de purs esprits, parce que le feu les informe en quelque sorte, leur donne une forme, et des âmes sont ignifiées. Donc tout se mélange entre les démons et les damnés, Et ils sont horrifiés par cette vision. Tellement horrifiés qu'ils disent, si Marie ne nous avait pas dit qu'on allait être sauvés, en voyant là où on aurait pu aller, on serait mort de terreur. Ils étaient soutenus par cette révélation. Marie leur a dit, vous allez sauver votre âme. Vous vous rendez compte ? Sœur Lucie a vécu ça toute sa vie en disant, je vais me sauver. Elle aurait pu devenir protestante, elle aurait pu devenir au moins luthérienne, en disant, quoi que je fasse, c'est merveilleux, Dieu m'aime, et je peux pécher tant que je veux, il ne faut pas que j'essaye de faire le bien, l'important c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est un peu ça le désespoir de Luther, il dit, j'arrive pas à faire le bien, j'arrive pas à tenir mes vœux, donc c'est trop difficile d'être vertueux. Je ne veux plus entendre parler des efforts, d'être aux côtés du Christ en croix, de participer à sa passion. Non, fini. Plus de passion, plus de crucifix, une croix, et plus de messe surtout. Mais une scène, une participation au repas eucharistique du jeudi saint, mais pas le renouvellement du sacrifice du calvaire par la séparation du corps et du sang, qui signifie la mort dans la messe. Hostie d'un côté, le calice de l'autre, précieux sang, ça signifie la mort. Quand on perd tout son sang, on est mort. On est en très mauvaise santé, en tout cas. Donc, vous voyez, ça signifie la mort. Et ce qui fait que la Vierge Marie nous dit, voilà où vont les âmes pour qui vous ne priez pas assez. Et elle ne dit pas, voyez, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont en enfer, c'est pas bien. Elle a dit, c'est à cause de vous qu'ils y vont. Le message de Fatima est un peu particulier, mais c'est un peu à cause de vous qu'ils vont en enfer.
C'est un coup de nous.
Et le petit François va prier. La Vierge Marie dit, vous deux, vous allez venir avec moi bientôt, et toi, tu resteras pour témoigner, Lucie. Eux vont mourir dans l'année. Et ils vont prier sans arrêt pour empêcher les gens de se damner, pour les pécheurs. Et ils prient, François, ils prient sans arrêt des chapelets. Et on lui dit, mais pourquoi ? Mais c'est pour les pécheurs, la dame a dit, c'est pour les pécheurs. Eh bien, voyez, Jésus, lui, nous dit qu'il va nous donner le signe de Jonas. Il va passer 3 jours, le vendredi soir, le samedi, le dimanche matin, aux enfers. Alors qu'est-ce que c'est que les enfers ? L'enfer au singulier, c'est ce qui est sous, en dessous, infero, envoyé en dessous, et c'est l'enfer de ceux qui ont la haine de Dieu et de leurs frères et sœurs. Les enfers, c'est ce qu'on appelle les limbes des patriarches. C'est là où se trouvent les âmes. Un peu comme la vision des Romains et des Grecs qui pensaient à une paix tranquille, on appelait les Champs-Élysées. Ils étaient sur des petites collines, des petites vallées, toutes vertes, avec de l'herbe coupée fraîche, des petits bosquets, de l'eau, de la nourriture bien. C'était les Champs-Élysées pour les justes. Tandis que les méchants, chez les Grecs et les Romains, étaient dans le Tartare, c'est-à-dire qu'ils étaient torturés, tout ça, par des esprits, par des démons. Et par l'Hadès, Hadès, le dieu des enfers. Mais pour le coup, le dieu de l'enfer. Eh bien, voyez-vous, les Juifs savaient par Dieu, et non pas par probablement des restes adamiques, pour que les Grecs et les Latins aient une notion aussi claire de l'enfer et du paradis, si vous voulez, de la récompense de la justice et de l'honnêteté. C'est que c'est la religion adamique pour moi. Et donc, c'est comme dans cette religion adamique qu'on découvre des allusions à un déluge dans des religions lointaines. Parce que les peuples se sont répétés ce que les premiers peuples leur ont dit. Ce que leurs ancêtres leur ont dit avant qu'ils se séparent à Babel. Les âmes se retrouvent sous la terre et ils attendent le bon vouloir de Dieu. Et ils sont en paix parce qu'ils n'ont pas, Il y a ceux qui sont en enfer, il y a ceux qui sont en purgatoire et qui regrettent d'avoir pas totalement aimé Dieu. Et puis il y a ceux qui sont morts dans la sainteté ou qui sont sortis du purgatoire et qui attendent. Tous les martyrs d'Israël, tous ceux qui ont été tués par les païens parce qu'ils étaient fidèles à la foi d'Abraham, ne sont pas allés au purgatoire, mais ils ne sont pas allés au ciel non plus. Le ciel, c'est voir Dieu, c'est vivre avec Dieu. Donc les âmes étaient sous terre, tranquilles, sans souffrance, dans l'espérance, mais sans voir Dieu. On appelle cela, cet état d'âme, les limbes des patriarches. Alors vous allez me dire, oh, c'est une invention des juifs, c'est une tradition de la synagogue. Oui, mais Jésus nous donne une petite parabole amusante où il parle exactement des limbes des patriarches. C'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Lazare est un pauvre misérable qui vit dans la rue et qui est plein de blessures, de plaies purulentes, et ce sont les chiens qui lèchent ses plaies et le soulagent. Mais à chaque fois que ce riche sort de chez lui, il ne lui donne même pas une pièce, même pas de la nourriture. Il doit estimer que c'est un déchet. Eh bien, il vient à mourir et il va en enfer. Il n'avait aucun amour, il va en enfer. Et là, il est brûlé vif tout le temps. Donc c'est Jésus qui nous explique ça. Hein, donc, il faut être vraiment bizarre pour écarter l'enfer, mais il faut être aussi bizarre pour ne parler que de l'enfer. Enfin, parlons de ce dont on parle. Le riche est en enfer. Il n'a aucun regret d'amour. Il souffre, il peste, il hurle, mais parce qu'il a mal. Et quand il dit à Dieu, il ne dit pas à Dieu d'ailleurs, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit de loin Abraham. Lui est en enfer et il voit Abraham. Et Abraham, lui, il est à la limite de l'enfer. Il est hors de l'enfer et il est dans les limbes des patriarches. Et Abraham est paisible. Mais il n'est pas en Dieu encore, Abraham. Et là, ce damné parle à Abraham et lui dit « Mais je cuis, j'en peux plus, est-ce que tu ne pourrais pas prendre de l'eau avec ton doigt et me mettre de l'eau sur ma langue ?» Et Abraham lui dit « C'est impossible, il y a entre nous une distance définitive. » C'est Jésus qui parle, qui fait parler Abraham. Enfin, c'est Jésus et Dieu, hein. Donc Abraham peut vraiment dire ça. Il y a une distance définitive entre les damnés et ceux qui ne sont pas damnés. Et là, il dit, mais alors va apparaître à mes frères et dis-leur de ne pas aller en enfer. Il leur dit, il dit pas, dis-leur d'aimer Dieu. Dis-leur attention, ils vont être punis. Mais ça, c'est la crainte servile. C'est pas l'amour, c'est pas ça qui nous fait éviter la haine. D'avoir peur du coup de bâton ou de la punition. Et donc Abraham lui dit « Quand bien même ils verraient un mort ressuscité, s'ils n'ont pas l'amour, s'ils ne suivent pas la loi et les prophètes, même la résurrection d'un mort ne leur fera pas changer d'avis. Oh. » Et le damné, il est là On est vraiment aussi dur que ça. Oui, Abraham le dit explicitement, c'est impressionnant. Eh bien, qu'est-ce que va faire Jésus ? Du vendredi saint au dimanche matin, il va aller au limbe des patriarches. Imaginez l'âme d'Abraham, l'âme d'Adam, l'âme d'Abel, l'âme d'Ève. Imaginez tous ces justes depuis des siècles. Abraham, David, quand ils ont vu Jésus arriver. L'âme de Jésus. Mais l'âme de Jésus, l'âme humaine de Jésus, est unie à la divinité. Le corps de Jésus est uni à la divinité. Dieu peut être partout. Le corps de Jésus mis au tombeau on peut lui parler et l'adorer, la personne divine du Fils est là. L'âme de Jésus, on peut lui parler et l'adorer, bien sûr, puisque la personne divine du Fils est là. Imaginez l'âme de Jésus avec la personne divine de Jésus, du Fils, qui apparaît au lein des patriarches. Mais imaginez la lumière. Parce que là, la transfiguration pour Pierre, Jacques et Jean, mais la lumière qu'il y a dû y avoir sous cette terre, où ces âmes se trouvaient. Alors il dit, ha ha ha, les exégètes modernes, alors vous allez nous dire que c'était dans des cavernes, dans des creux, ils étaient à certains endroits. Il dit, d'abord c'était des âmes. Donc ils n'ont pas besoin d'un lieu précis, puisque ce sont de purs esprits. Mais probablement, en effet, ils étaient dans un lieu. Vous voyez. En tout cas, si vous voulez, c'est un état d'âme d'être dans la grâce, mort dans la grâce et pas voir Dieu encore. Voilà. C'est ça les limbes des patriarches. Eh bien, Jésus a été dans cet état pendant 3 jours. Jésus a vécu notre mort totalement. Il a vécu en état de fantôme. Quelle joie de pouvoir dire ça par rapport aux exégètes modernes. Vous voyez, ça leur fait de la peine de devoir entendre des concepts précis. Une âme séparée, vulgairement, de manière populaire, on appelle ça un fantôme. Et en effet, lorsque notre âme est hors du corps, c'est une âme séparée. Quand je vous ai dit que Saül avait invoqué Samuel, c'est l'âme de Samuel qui lui est apparue. Alors ça aussi c'est faux. Oui, mais tout est faux de toute façon. Vous voyez ? Eh bien Jésus, lui, descend aux enfers. Problème pour les exégètes modernes, c'est dans le credo. Comment ils vont devoir se débrouiller ? C'est dans le credo. Même autorité que la Sainte Écriture, le « Je crois en Dieu », est descendu aux enfers. Aux enfers au pluriel, c'est l'état de l'âme qui se trouve sans hors du corps et pas encore dans la vision béatifique. Sauf que Jésus, lui, est dans la vision béatifique, mais c'est propre à lui, et il va visiter les enfers, les limbes des patriarches, pour leur dire « Bientôt, je vous emmènerai avec moi. Bientôt, vous allez avoir la vision béatifique. » Imaginez la joie qu'il y a eu pour ces âmes. Et alors, vous avez des auteurs spirituels qui brodent et qui brodent et qui brodent, mais c'est mignon comme tout, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. Mais du vendredi soir, tout le samedi et le dimanche matin, ils ont pu parler ensemble, communiquer ensemble. Toutes ces âmes de tous ces siècles, et pas seulement des juifs, parce que nous étudierons dans le baptême de désir et l'ignorance invincible, toute âme droite meurt dans la grâce. C'est saint Paul qui nous le dit, tous les païens ont pour loi leur conscience, mais leur conscience objective entre le bien et le mal, non pas la conscience subjective dont on nous parle de nos jours, où on nous dirait que des gens pense être dans le bien, mais se doute bien que c'est pas si bien que ça, mais subjectivement, ils se disent que ce qu'on dit mal est bien pour eux, enfin, c'est pas la véritable pureté de conscience. La véritable pureté de conscience, c'est quand vous êtes certain que vous êtes dans le bien et que vous faites le bien. Mais c'est rare, voyez-vous, qu'un prêtre de Baal pense sincèrement que pour honorer Dieu il faut brûler un bébé. Les hurlements de la mère, les remords de conscience qu'il peut avoir ne le laissent pas dans une religion fausse, mais en même temps dans une conscience pure. Par contre, au fin fond d'un pays, au fin fond de l'Australie, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du Pérou, vous avez un petit enfant, un homme qui prie humblement et qui respecte Dieu et qui veut obéir, qui veut être honnête, qui veut être juste, et il sauve son âme, ça c'est certain. Et les missionnaires, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont actualisé tous les baptêmes de désir qu'il y avait autour d'eux. C'est tout. Mais si vous voulez, plutôt que d'être dans l'ignorance, il vaut mieux être dans la science et dans la. Ça nous aide plus de savoir précisément qui est Dieu. Parce qu'eux devaient se sauver en pensant que Dieu, quand même, était dur. Ils voyaient leurs prêtres faire des sacrifices humains, tout ça. Ils disaient oh, c'est un peu difficile quand même, j'aimerais pas être à la place de la victime. Ils craignaient Dieu, ils avaient peur de Dieu. C'est pas la meilleure façon de se sauver. Hein. Jésus passe 3 jours au limbe des patriarches. Et Jésus leur dit, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Et Jonas passe 3 jours dans le ventre de la baleine, dans l'eau, ce qui signifie les ténèbres, la mort. Et donc les limbes des patriarches. Et tous les juifs comprennent. Et vous, est-ce que vous comprenez? Mais maintenant que je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers, j'espère que vous allez le comprendre. Quand Jésus dit « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que Jonas », Jésus, il est très clair sur la Sainte Écriture, sur le livre de Jonas. Et Jonas, lui, dans les limbes quand même, hein, il a dû se réjouir d'être cité avant de voir Jésus lui-même. Il a dû faire le fanfaron au milieu des autres prophètes. « Ah, vous l'avez vu ? il me cite. » Oui, mais il le cite. Mais quand il est recraché sur les bords, il est ronchon quand il va à Ninive. Il est là et il fait « Dans 40 jours, vous allez tous crever. Dieu va vous punir. Vous êtes des salauds, des pécheurs. Vous allez crever. Il ne restera plus une pierre sur l'autre. » Et tout. Voilà. Et donc il fait ça et dit « Vous allez tous mourir. Tous. La punition de Dieu est sur vous. » Il fait le bon prophète de l'Ancien Testament. Il est bien content. Et après, il s'en va, et en fait, il sait qu'il a prêché pour des prunes. Il s'assied, il se met en tailleur, et il dit, c'est de rage. Il a dit pendant 3 jours, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Mais au fond de son cœur, il sait que ça ne va pas se réaliser. C'est terrible. C'est un peu comme moi, s'il disait, je vais sur la place de la Concorde, et je dis, peuple de France, si tu ne te repens pas, la fin du monde est proche, Paris sera brûlé, Marseille engloutie, vous aurez des jours de ténèbres, vous allez tous mourir, toutes les prophéties les plus sinistres vont s'accomplir sur vous, parce que vous êtes des pécheurs, des salauds, vous avortez à qui mieux, vous regrettez jamais vos péchés, vous êtes des... Elle dit, oh, monsieur l'abbé, une petite camomille, un petit séjour à Sainte-Anne peut-être, hein, un petit Tranxen, un Xanax, du Prozac au moins, voilà. Oui, mais riez, parce que il part, et puis Dieu lui dit, Jonas, tu n'es pas au courant? Le roi de Ninive commande de faire pénitence. Lui-même retire ses habits royaux. Il se met en sac à patates, le sac de crin. Il fait jeûner toute Ninive. Lui-même ne mange plus. Il demande à ce qu'on fasse jeûner les bêtes. Ni à manger, ni à boire. Et vous avez les bêtes qui sont là, au bout d'un jour, 2 jours, la langue sèche, et vous avez des clameurs de bêtes dans Ninive. Ils sont là, mais c'est pas possible. Même les bêtes demandent à Dieu d'arrêter. Et Dieu dit à Jonas, eh bien, leur pénitence me suffit. Ninive ne sera pas détruite. Maintenant, va leur dire. Alors Jonas se lève, va dans Ninive et leur dit « Vous avez fait pénitence, donc Ninive ne sera pas détruite, bonjour chez vous, Dieu vous aime !» Et il s'en va, mais furieux. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous lire le chapitre 4, versets 1 à 4 du livre de Jonas. Jonas en éprouva un vif chagrin. Il aurait voulu que Ninive soit rasée et que tout le monde soit mort. Un bon prophète de l'Ancien Testament. Et il fut irrité. Il fit une prière à Yahvé et dit « Ah, Yahvé, je suis Dieu, l'être subsistant par lui-même. N'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi je me suis d'abord enfui à Tarsis, car je savais que vous êtes un Dieu miséricordieux et clément, lent à la colère, riche en grâce et vous repentant du mal. Maintenant, Yahvé, retirez donc de moi mon âme, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. Je suis déshonoré. Je suis un juif. Mon peuple pêche tant qu'il peut. Vous ne le menacez pas. J'aurais voulu prêcher comme ça pour mon peuple. Lui foutre une trouille monstrueuse pour qu'il se convertisse. Non, vous m'avez envoyé à des païens. Et en plus, ils se convertissent, eux, et pas mon peuple. Mais c'est épouvantable. Je suis déshonoré, humilié. J'ai plus de face, j'ai plus rien. Je suis mort. Tuez-moi. Et Yahvé répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?»
C'est beau, c'est magnifique.
Il se retira dans l'Est, dans le désert. Et alors là, vous allez me dire que je l'utilise des expressions argotiques depuis tout à l'heure et que c'est une manière particulière. Mais non, l'auteur de ce livre, qui est... Je ne sais plus, c'est un collectif, je pense. Auteur Scott Ahn. Voilà, Scott Ahn. Eh bien, il dit, il se retira à l'est, dans le désert, pour bouder. Pas moi. Là, c'est pas moi. C'est mon vocabulaire, mais c'est lui qui l'a écrit, c'est l'auteur qui l'a écrit. Alors vous allez me dire, il n'a pas dit ça en anglais. Et le traducteur... Le traducteur, c'est Gilles Ménard, mais il y en a d'autres. Bon. Aussi, Dieu lui donna une leçon. Dieu ordonna qu'une plante au large feuillage pousse au-dessus de Jonas pour lui procurer de l'ombre et le protéger du soleil brûlant. Parce qu'il voulait mourir et mourir cramé par le soleil. Il s'est mis dans le désert sans se protéger. De toute façon, il était tellement déprimé. Et Jonas se réjouit finalement à cause de la plante. Et comme Dieu voulait lui faire passer de l'eau au feu, du feu à l'eau, il fait crever la plante. Il est à nouveau au soleil. Mais le lendemain, Dieu envoya un ver manger la base de la plante et elle se flétrit. Le soleil dardait à nouveau et Jonas se remit à bouder. Il voulait mourir. Chapitre 4, versets 9 à 11. Alors Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter ?» à cause de cette plante qui vient de mourir ? Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il n'était vraiment pas content. Hein. Et vous voyez, il y a une manière virile de parler à Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne parlait à Dieu. Hein. Nous, on est là, mais Dieu, le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui l'emportent. Allez, il ne faut pas seulement être gentil avec le bon Dieu, il faut aussi lui réclamer des grâces. Et parfois être fort. Mais chacun son tempérament. Vous doutez bien du mien. Voilà. Et Yahvé dit, tu t'affliges au sujet du ricin, c'est la plante qui va pousser, pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui est venu en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je ne m'affligerai pas au sujet de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. 120 000 hommes, mais là c'est hommes au sens général du terme, 120 000 enfants. Ninive était une ville immense, il y avait 120 000 enfants qui n'avaient pas encore l'âge de raison et Dieu dit ça à Jonas. Parce que quand il y a une punition divine, nous on se dit... Oui, l'Occident mérite d'être détruit, tout ça, l'islam est un fléau de Dieu, tant pis pour nous, que la fin du monde arrive, machin, on l'a bien mérité à cause des avortements et tout ça, et machin, et vous avez des mystico-dingos qui pètent un câble. Ben, on ne souhaite jamais la guerre, on ne souhaite jamais une punition divine. Si la punition divine arrive, c'est parce que c'est le dernier recours miséricordieux de Dieu, qui n'a plus que ce moyen pour nous réveiller, comme on donne une claque à quelqu'un pour l'arrêter, quoi, sur le chemin de du délire. Et donc, nous ne devons jamais demander à Dieu des punitions. Nous pouvons nous plaindre à Dieu du péché, de ce qui va mal et tout ça, mais faisons attention. Et le livre de Jonas, il est en plein Ancien Testament. Donc ne croyons pas facilement qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu ne change pas. Et le livre de Jonas, lorsqu'il est médité, on voit l'amour de Dieu. Un amour de Dieu qui est quand même encore viril, puisque s'il n'avait pas fait pénitence, Ninive aurait été détruite. C'est vrai.